de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, que beaucoup de joie que je vous retrouve pour continuer notre exploration des grandes vertus, aujourd'hui la foi. Puis nous recevrons le Père Gide, puis nous écouterons quelques chants de la divine liturgie. La fois dernière, les fois dernières, j'ai parlé des vertus dites morales, la tempérance, la prudence, le courage, la justice. Aujourd'hui, nous allons aborder les vertus dites théologales ou bien célestes, ces vertus que sont la foi, l'espérance et la charité. La foi, j'aime bien la penser comme le savoir absolu, par goût du paradoxe qui éclaire et qui stimule. En effet, trop souvent, on oppose la foi au savoir, sans apercevoir, et nous essaierons de le comprendre, qu'il n'y a pas plus haut savoir que celui que nous donne la foi. Pour comprendre la foi, il convient de procéder d'une manière trinitaire, à travers les aspects matériels de la foi, les aspects personnels de celle-ci, et les aspects transcendants et célestes de celle-ci. La foi est d'abord éminemment pratique et elle relève du bon sens. Si nous voulons réussir quelque chose, il importe d'y croire. Quand on n'y croit pas, ça ne marche pas. D'où la rationalité de la prophétie autoréalisatrice. Nous réussissons, pourquoi ? Parce que nous nous disons que nous allons réussir. Quelqu'un réussit, pourquoi ? Parce qu'on lui dit qu'il va réussir. Si on lui dit tout le temps qu'il va rater, il finit par rater. La foi relève du bon sens, pourquoi ? Parce qu'il importe d'être un avec ce que l'on fait, un avec soi, un avec le monde autour de soi. On n'arrête pas de se diviser, et en se divisant, on s'affaiblit, on devient le meilleur ou le pire ennemi de soi-même. Il importe de devenir le meilleur ami de soi-même. Et je crois que c'est un des aspects qui permet de comprendre la parole du Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu seras un avec l'autre qui sauve, comme tu seras un avec celui qui sauve en toi. Si tu es un avec celui qui sauve en toi, tu seras un avec celui qui sauve partout. La foi relève donc de la sagesse pratique et nous en apercevons tous les jours. Il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec des financiers et il convenait que les marchés ont besoin de confiance. On a besoin d'hommes et de femmes qui croient dans l'action qu'ils mènent pour que la société puisse se construire et vivre d'une manière prospère et heureuse. La foi est matérielle, pratique, mais elle est aussi personnelle. J'aime bien ce que dit Bergson à propos de la vie et de la foi dans la vie, car elle correspond très exactement à la sagesse de la véritable morale. On ne peut pas vivre en pensant que la mort est le dernier mot de la vie et que tout va définitivement se terminer dans le néant. On ne peut pas vivre en pensant que l'homme a été mauvais, il sera toujours mauvais. Il a été violent, il est violent, il sera toujours violent. On ne peut pas vivre en pensant que la mort et la violence auront toujours le dernier mot. Qu'est-ce qui fait que l'on vit ? Ce qui fait que l'on vit, c'est que l'on pense que la vie est plus forte que la mort et que l'humanité, dans ce qu'elle a de noble, est capable d'être plus forte que la violence. Certes, ces propos sont démentis par le constat lucide. Le constat lucide montre que la mort a le dernier mot et que nous allons tous mourir. Et le constat lucide montre que malheureusement, la violence finit toujours par renaître et donne l'impression de l'emporter sur les plus belles dispositions de l'humanité. Oui, mais ce qui est vrai du point de vue du constat lucide ne l'est pas du point de vue de la pratique et de la vie. Je ne vis pas en pensant que tout est condamné au départ, que ce soit la vie et l'homme. Je vis, nous vivons parce que nous pensons que rien n'est condamné, que la vie est plus forte que la mort et que la noblesse des hommes est capable de surmonter leur violence. D'où le sens ici de la morale, à savoir cet élan vital qui y croit envers et contre tout, non pas pour des raisons pratiques, mais pour des raisons éminemment morales, c'est-à-dire éminemment spirituelles au sens humain du terme. En ayant le sens de la vie pratique et de l'élan vital dans la vie pratique, nous permettons à l'humanité de se construire. Et il est beau de permettre à l'humanité de se construire, il est beau, il est noble de croire dans la noblesse possible de l'humanité. Le magnifique de la foi, c'est de nous ouvrir une troisième perspective qui n'est pas simplement pratique ou qui n'est pas simplement humaine, mais qui relève de ce que l'on peut appeler le savoir absolu. Pendant longtemps, les philosophes ont discuté en opposant foi et savoir. Qu'est-ce qui vaut mieux, la foi ou le savoir? Le savoir ou la foi? Saint Augustin a essayé de les réconcilier en disant que nous avons besoin de savoir pour avoir la foi et nous avons besoin de foi pour savoir. Il importe d'aller au-delà de cette sage réconciliation en montrant quelque chose de plus. Nous sommes reliés à la dimension divine de l'existence. Qu'est-ce que cette dimension divine de l'existence ? C'est ce qui est relié au fait inouï de la vie, un fait que nous pouvons expérimenter quand nous nous arrêtons, nous regardons, que nous écoutons, que nous sentons, que nous respirons, que nous savourons. En vivant pour vivre, nous découvrons de l'intérieur de la vie une présence qui est. Et cette présence qui est, elle est en nous, en nous permettant d'être. Elle est dans tout contact profond, en permettant à la relation humaine d'être. Elle est dans la vie, en permettant à la vie d'être. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons vivre? C'est que nous nous relions à cette dimension absolue de la vie, être, l'être de nous-mêmes, l'être de l'humanité, l'être de la vie. Et quand nous nous relions à cette dimension, nous découvrons une existence dense, profonde, charnelle. Nous acquérons un cœur, nous acquérons un corps, nous acquérons une âme, nous acquérons un esprit. Nous rentrons dans le réellement réel de la vie. Et on peut dire que nous avons la foi dans la mesure où nous ne doutons pas de cette dimension fondamentale de l'existence. Quand le Christ fait des miracles ou quand il enseigne et qu'il parle à la foule, il élève celle-ci vers la haute connaissance de l'être. Et pour aller avec lui dans la haute connaissance de l'être, il faut ne pas douter de cette relation à la vie divine. Est-ce que tu crois sans douter un instant à l'existence de cette vie divine qui s'exprime en toi par la présence qui est? Si tu n'en doutes pas, alors tu pourras guérir, alors tu pourras connaître, alors tu pourras vivre. Et nous apercevons quoi? Que savoir vivre et avoir la foi, c'est exactement la même chose. Je sais vivre dans la mesure où je m'ouvre au savoir absolu de la vie. Et parce que je m'ouvre au savoir absolu de la vie, je m'ouvre au savoir le plus concret, le plus pratique de l'existence. Je m'ouvre au savoir de moi-même, le savoir intelligent de moi-même. Je m'ouvre au savoir de l'humanité et du monde, au savoir intelligent, inspiré de l'humanité et du monde. Beauté, grandeur, force, lumière de la foi. Slava. Tebie pokazał, że mu nam świat. C'était un chant de Pâques exécuté par Divna. Chers amis, j'ai le grand plaisir de recevoir le père Jean Gate, dont la paroisse est à Marseille, et qui aujourd'hui et dans les semaines qui vont venir, va d'une part se présenter, mais nous présenter également les points qu'il juge particulièrement importants dans le témoignage et qui est le sien ainsi que son ministère. Cher Jean-Père Gate, bonjour.
Bonjour Bertrand, bonjour chers auditeurs.
Oui, vous avez choisi de vous présenter et justement, j'ai hâte de vous entendre.
Merci, c'est gentil. Oui, je pense que dans la mesure où c'est la première fois que j'interviens sur ces ondes, il est normal que je me présente pour qu'on sache un petit peu qui va parler. Donc, et puis parce que je représente une certaine catégorie sociologiquement, historiquement, puisque je suis petit-fils de la première de l'émigration de la Révolution, ce qui signifie quelque chose. Je suis de ce point de vue-là peut-être un des derniers représentants de cette catégorie, de cette génération. Donc, je suis né en 1945, ça vous donne mon âge maintenant. D'abord, je précise que je suis marié, que j'ai eu 3 enfants, que j'ai 4 petits-enfants, que je suis aujourd'hui un retraité des facultés de droit, comme on dit.
Vous étiez professeur de droit.
J'ai été professeur de droit, enfin, formellement, maître de conférence, mais enfin oui. Bon, j'ai enseigné le droit public dans le grand amphi avec les étudiants. Et donc, je suis prêtre depuis 42 ans maintenant. Si vous voulez bien, je propose de revenir sur mon parcours sociologique, culturel, psychologique, justement, compte tenu de mes origines, parce que, bon, c'est pas toujours évident. Je me définis honnêtement comme un biculturel et un bilinguiste. Linguiste en quelque sorte, n'est-ce pas, puisqu'il en est ainsi, et que je pense que ça a joué un rôle dans ma vie, dans mon parcours. Je laisse aux psychanalystes d'analyser un petit peu ce que ça peut représenter. Le russe a été ma langue maternelle jusqu'à mes 6 ans, alors que je suis né à Nice, je suis né en France. Mon père est français, un très brave homme, mais qui a été donc directeur d'agence de voyage, qui était très occupé, que je ne voyais pas beaucoup. Ma mère travaille déjà, a été enseignante, elle aussi, un professeur de russe. Et donc, j'ai grandi avec mes grands-parents, donc directement émigrés, mon grand-père ayant été colonel d'état-major. Et donc, au moment de la Révolution, vous comprenez qu'il n'avait pas beaucoup de choix, si ce n'est que de rallier, ou tout simplement, il rallier Lénine, ou alors il fallait partir. Et donc, il est parti, et à travers l'Europe, comme beaucoup, et donc, il arrive à Nice, en 1923, à peu près, je crois. Alors, ce qui est important, c'est que j'ai, en effet, grandi en russe. Et je voudrais dire à ce propos, parce que je prendrai conscience de cela par la suite, qu'il y a une psychologie des langues. Hein, je ne veux pas être choquant, mais il y a une psychologie des langues. Justement, quand on connaît le français et le russe, j'ai fait aussi de l'anglais, j'ai fait de l'allemand, et il y a une psychologie des langues. Et surtout, entre ces deux-là, le russe et le français, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est que le français, c'est véritablement une langue, elle est gutturale. C'est pas, il faut voir comment la vraie poulasse, elle est gutturale, et c'est la langue, c'est la langue du discours, on peut dire. Et c'est la langue des grandes déclamations, c'est la langue diplomatique, c'était la langue presque unique de la SDN, des nations, c'est la langue de l'avocat par excellence, si je puis dire, avec ou pas les effets de manche. Le russe, c'est tout à fait autre chose. On n'imagine pas justement les déclarations d'avocats en russe comme on peut les voir ici en France, n'est-ce pas ? Mais c'est une voix qui est pectorale, elle vient des plus profonds de la poitrine, ce qui explique d'ailleurs, par exemple, point de vue chant, pourquoi les Russes chantent comme ils chantent un courant, et bien c'est lié à la manière dont la voix est placée. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études quasi scientifiques qui l'ont démontré, n'est-ce pas? Et donc, j'ai expérimenté, et je peux dire que j'expérimente encore moi-même, cette différence d'état psychologique, je le reconnais très honnêtement. Je parle tout de suite de la prière, je reviendrai ensuite sur mon parcours. Il y a des jours où j'ai grandi en russe, et donc j'ai prié en slavon, même si je ne connaissais d'ailleurs pas tout le sens des prières. Mais, et ensuite, je suis venu au français, et bien, c'est pas exactement la même chose, du moins pour moi. Celui qui apprend directement en français, bon, il n'a pas de problème de distinction. Moi, j'en ai un petit peu une, mais enfin, bon, c'est ainsi que les choses se présentent pour moi. Alors, être biculturel, c'est évidemment d'abord grandir dans un certain contexte et hériter évidemment de l'histoire de ses parents et surtout des grands-parents. Moi, je me définis d'abord comme petit-fils de cette émigration russe, parce que c'est ça qui a déterminé ce que je suis en quelque sorte. Alors, encore une fois, le russe langue maternelle, et puis évidemment le contexte de l'émigration, de la fuite du régime bolchevique, donc nécessairement anti-bolchevisme, anti-soviétisme, etc. et tout, ce qui ne veut pas dire anti-russe globalement, on s'en fout, il faut pas confondre, bien évidemment. Mais malgré tout, ça a déterminé pas mal de choses, et je serai d'ailleurs par ailleurs plus tard, et quand je serai professeur de droit, je serai spécialisé aussi dans le système soviétique, je veux dire d'un point de vue scientifique, d'un point de vue des institutions, et que j'expliquais un peu justement à partir des critères de la science occidentale, si je puis dire, de la théorie du droit, etc. Et puis donc, il y aura plus tard le problème de la rencontre avec la chrétienté d'Occident, c'est-à-dire le catholicisme. Et de ce point de vue-là, au fur et à mesure que je grandirai, j'ai fait mes études normales, secondaire, lycée, et puis donc jusqu'à mes 15 ans à peu près, je ne connais que l'orthodoxie russe, dans la cathédrale russe, en slavon, les beaux chants, que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien senti à un moment donné j'étais un petit peu à la marge, si je puis dire. Heureusement, mes 15, 16 ans, 17 ans, j'ai pu rencontrer, à la faveur des rencontres orthodoxes dans le sud de la France, des hommes comme Père Cyril Argentier, le Père Boris Bobrinskoy, et je dois vous le dire, quelqu'un que vous avez, Georges Rode aussi, le métropolite Georges Rode du Liban, et quelqu'un que vous avez bien connu, qui est Olivier Clément. Alors Olivier Clément présentait la particularité d'être lui un Français 100%, souche, comme j'ai bien connu, et qui est venu à l'orthodoxie directement, et non pas par le catholicisme, n'est-ce pas, vous le savez bien, il est passé, comme il raconte lui-même, par l'Inde, etc. Il explique pourquoi, finalement, il est venu à l'orthodoxie, mais c'est très important, puisqu'il a découvert ou l'a rencontré le Christ, qui est venu le chercher, lui dit-il lui-même d'ailleurs, n'est-ce pas, directement, à travers ou dans le cadre de l'Église orthodoxe. Et ceci a été pour moi tout à fait déterminant, parce que moi, qui, au fond, était orthodoxe sociologique, si je puis dire, et donc essentiellement à travers le rite, à travers les célébrations, le beau chant, l'encens, tout ce que vous voulez, j'étais bien, honnêtement. Mais il y avait un problème quand même de compréhension, d'appréhension des choses. Et donc, Clément et les autres, mais surtout lui, me permettra de faire la jonction, finalement, et de faire se rencontrer ce de quoi j'étais issu, ce que j'ai reçu, et avec la société dans laquelle j'étais. Cette fameuse formule, n'est-ce pas, être chrétien, hic et nunc, ici et maintenant, comment être témoin, ici et maintenant. Et donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu mon parcours, véritablement, j'allais dire en toute conscience. Jusque-là, c'était un petit peu, presque par inertie, et au nom un peu de la beauté du rite. Là, je commence mon parcours conscient, j'utiliserai sa fameuse, n'est-ce pas, c'est la rencontre avec la modernité, mais c'est aussi la rencontre avec la chrétienté d'Occident, disons-le plus particulièrement, le catholicisme. Alors, en ce qui concerne le catholicisme, je ne parlerai pas du protestantisme ici, parce que ça n'a pas sa place, mais en ce qui concerne le catholicisme, eh bien, j'ai grandi aussi un petit peu, il faut bien le reconnaître, un peu dans un anti-catholicisme, parce que quand les Russes d'origine forcément le sont toujours un petit peu, il faut toujours se comparer contre, n'est-ce pas, c'est d'ailleurs ce que reprochait toujours Clément. Mais cela me conduira à, dans le cadre de mes rencontres et tout, à préciser ce qui me paraissait important. Et il y aura trois choses importantes, c'est le thème de la foi, c'est le thème du croire, et justement je reviendrai ultérieurement sur l'étymologie, sur celui de la divino-humanité du Christ. Le Christ, tous les chrétiens croient en Christ, mais je crois qu'il est important d'insister sur cette formule qui est peu utilisée en Occident, en France, la divino-humanité, et enfin évidemment la pierre d'achoppement majeure qui va déterminer la séparation de la spiritualité entre l'Occident et l'Orient, c'est la question de la théologie du Saint-Esprit, de la pneumatologie, pour jargonner un petit peu, et plus particulièrement la question du filioque, n'est-ce pas, nous reviendrons sur cette formule au moment voulu. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup, cher père. Et à nouveau, pour clore cette émission, la merveilleuse Divna dans la fin de ce chant de Pâques que nous avons commencé à écouter. Blagoslovenie si Gospodi nauči mia opravdaniem tvojim. Blagoslovenie si Gospodi nauči mia opravdaniem tvojim. Blagoslovenie si Gospodi nauči mia opravdaniem tvojim. Gospodi, pribježište mi je si na mladi odazrije. Gospodi, pomiluj mia i scijeli dušu moju jako sogriješih tebje. Ako ti jesi Bog moj, jako u tebe istočnik života, vo svijet je tvoje muzrim svijet, probavi milost tvoju vjedušćim tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Iako ti jesi Bog moj, iako u tebe istočnik života, vo svijet je tvoje muzrim svijet, probavi milost tvoju vjedušćim tja. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Svijati Bože, svijati krijepki, svijati besmertni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova.
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
This game ends up always the same. Utahs and I, Mary Jane. You cowboy, I Indian. It will be much easier if we had superpowers. He's my Peter Pan. She's my Tinkerbell. Everyone knows the end. Let's go to Neverland. You know, I know you can fly. Take it easy, close your eyes. Promise never to pass by. Cross my heart and hope to die. Tick-tock, the crocodile. Rewind when Captain O cries. Leave your shadow, leave your mind.